Une journée en hommage aux fusillés de la Seconde Guerre.
Mesdames, Messieurs, la connaissance de l'histoire ne nous préserve pas du pire.
Les fusillés 1940-1944.
Dans les mois de janvier-février 1944, les cours martiales allaient dans les prisons. Et on tenait une cour martiale avec des gens pour ne pas être connus, cagoulés. On fusillait dans la cour de la prison sans autre jugement qu'une soi-disant cour martiale.
À la veille de la libération, on le sait, la répression est à son sommet. Le risque d'être fusillé par des troupes de passage grandit. Des cours martiales, soi-disant cours martiales, sont issus de la milice et des groupements militaires de réserve que le régime de Vichy a laissé faire. Les tribunaux ordinaires de celui-ci avaient déjà auparavant prononcé nombre de peines de mort contre les terroristes. Le régime avait même tenté une expérience extrême, celle des sections spéciales au jugement sans appel. Mais c'est dès le début de l'occupation que les tribunaux militaires allemands avaient prononcé des peines de mort. C'est eux qui furent les principaux pourvoyeurs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de collaboration de la police ou des autorités civiles françaises, par exemple pour désigner les otages. Au nom d'une codification qui prétendait respecter des règles de droit, 863 otages ont été exécutés en représailles d'actes anti-allemands. Otages, auteurs d'actes de résistance, de francs-tireurs, disait l'ennemi, les différenciations ont leur importance. Le comptage aussi, évidemment. Depuis la libération, d'ailleurs, des chiffres extravagants ont été produits par souci idéologique plus qu'historique. Mais une fois quelques vérités arithmétiques rétablies, il est temps d'entrer dans la complexité des parcours de chacun, un gigantesque dictionnaire des fusillés qui vient de paraître en reconstitue ainsi rien moins que 4525.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Claude Pentier, bonjour.
Bonjour.
Un des animateurs de ce dictionnaire qui pèse 2 kilos, qui paraît aux éditions de l'Atelier, qui donnera lieu évidemment à un site qui le prolongera et l'enrichira encore. 30 euros seulement, parce que c'est un travail collectif, vous avez eu beaucoup d'organisations, notamment le CNL, qui vous ont soutenu. Oui. C'est un travail d'équipe, parce que vous êtes habitué à animer des groupes d'historiens. Vous êtes le maître d'œuvre aussi depuis très longtemps du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier de Jean Métron, qui maintenant est devenu un arbre très prolifique.
Oui, c'est le 77e volume du Métron. En effet, c'est un travail collectif, hein, toujours le Métron. C'est d'ailleurs un travail aussi qui est un travail d'amitié pour les gens qui travaillent entre eux. Et là, on en profite d'ailleurs pour saluer Jean-Pierre Besse, qui est à l'origine de ce volume et qui est décédé en juillet 2012.
Mais vous êtes 120 à avoir travaillé.
111 ont signé une biographie et puis une trentaine ont vraiment participé à l'équipe aux réunions, etc. Donc c'est un vrai travail collectif. On ne peut pas les citer tous. Certains apparaîtront peut-être au fur et à mesure des biographies que nous allons travailler.
Ce qu'on peut faire, Claude Pentier, c'est peut-être utiliser un grand mot scientifique. Les spécialistes de l'époque romaine, ceux qui faisaient l'inventaire des chevaliers de l'époque romaine, faisaient de la prosopographie et vous faites de la sociobiographie.
Oui, on a commencé par faire de la prosopographie, mais à vrai dire, le mot effraie un peu, c'est le profil, ça vient de profil, c'est la mise en parallèle des biographies individuelles pour faire apparaître les facteurs discriminants. Hein, qui permettent de reconstituer. La sociobiographie, elle est moins exigeante statistiquement, mais elle va chercher les gros documents, elle va chercher la photo, elle va chercher le film, elle fait un peu feu de tout bois, et bon, c'est une méthode qu'on applique notamment avec Bernard Pudal, qui est sociologue, une méthode à la fois sociologique et historique.
Exemple.
Mais à partir de là, on pourrait faire une fameuse sociobiographie de ces acteurs.
Avec les singularités de chacun qui sont dessinées. Juste pour prendre un exemple, l'article Paul Novara. Alors là, c'est un personnage extraordinaire, c'est un soldat allemand, il est d'origine polonaise, et on lui dit en 1942, bah, tu fais partie du peloton d'exécution d'Albert Girouille. Alors il y a aussi un article, Albert Girouille. Albert Girouille, c'est un chasseur, caché son fusil de chasse, à moins qu'il ait volé
les fusils. Il devait rendre les fusils, il ne l'a pas fait. Et il suffisait de ça pour se faire condamner, parce qu'il y avait le soupçon quand même qu'il le gardait pour l'utiliser contre l'occupant. Mais là, les documents ne permettent pas de dire si c'était le cas. Et Paul Novara refuse de tirer, et du coup, on le met de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on le fusille avec Girouille, et on l'enterre à côté de Girouille. Il y a des fois comme ça des actes qui méritent d'être soulignés.
Principaux pourvoyeurs, et de loin, les tribunaux militaires allemands dont vous décrivez le fonctionnement, ils sont trois juges ?
Oui, trois juges. Ça va de plus en plus vite. D'ailleurs, au début, on prétend respecter des règles et être dans les règles internationales de la guerre. Tout ça est un peu factice. Mais on peut même avoir un avocat. Mais il y a quand même une condition. Il faut que l'avocat parle allemand. Ce qui court pas les rues dans toutes les provinces. L'avocat a le dossier une heure avant. Donc il peut pas vraiment connaître les faits. Et alors dans ce cas-là, on met un avocat d'office, c'est-à-dire un militaire allemand qui lui ne connaît rien aux faits. Donc c'est tout ça est un petit peu sommaire.
Au départ, on peut peut-être restituer, comme l'a fait ce téléfilm de Jacques Dupont, Les Sacrifiés, la cour martiale qui a jugé Honoré d'Estienne d'Orve, un article dans votre dictionnaire. C'est un officier de marine de la France libre qui a pris la tête d'un réseau de renseignements. Il a été trahi par l'un de ses hommes. Nous sommes en mai 1941.
Le tribunal se trouvait en face d'une tâche lourde. Il fallait juger des hommes et des femmes, des personnes de mérite et d'une grande fermeté de caractère, qui n'ont agi que par amour de leur patrie, mais de même que ceux-là ont cru être obligés à remplir leur devoir envers leur patrie. Nous, les juges, étions tenus à remplir notre devoir envers notre patrie, selon les lois de la guerre, dures et inexorables. Celui qui le viole doit se rendre compte qu'il encourt les punitions les plus sévères que la législation comporte.
Le trajet fut long de Fresnes au Mont-Valérien. Honoré d'Étienne d'Orve se dirige vers le procureur du tribunal qui a tenu à être présent.
Nous avons tous les deux fait notre devoir.
Nous avons tous les deux fait notre devoir.
Enfin, au cherche-midi, la prison, il avait été un peu secoué d'Estienne d'Orve. Et les mœurs n'étaient pas aussi civiles ni aussi polies.
Mais avec le président, c'était le même milieu, quoi. C'est le même milieu social.
Le Mont Valérien apparaît très souvent, c'est un des premiers massifs de mémoire.
Oui, il joue un rôle important, et puis c'est un lieu de mémoire en plus que les gens peuvent visiter, dans lequel il y a toute une série de petits lieux spécifiques, etc. Enfin, c'est vraiment très impressionnant de visiter le Mont-Valérien.
Autre lieu de mémoire, Nantes et Châteaubriand, on va aborder là la question des otages qui font partie des tout premiers fusillés, d'ailleurs juste... Entre le moment où était prononcé l'arrêt contre d'Estienne d'Orve et son exécution, il y a eu le premier attentat spectaculaire organisé par les communistes contre un officier allemand au métro Barbès. La politique des otages, moi j'ignorais ça, faisait l'objet d'une codification extrêmement précise de la part des Allemands.
Tout à fait. Non, les Allemands ont attaché une grande importance à cette politique des otages et ils reprenaient une tradition de guerre qui fait qu'on peut prendre un otage dans le maire, des personnalités, etc. Mais ils l'ont appliqué différemment parce que tout ça était d'abord surdéterminé par une dimension idéologique et raciale. Et les règles, les Allemands fixaient des règles très précises. Il n'y a qu'à la fin de la guerre qu'ils se sont vraiment libérés de toutes ces règles. Il y avait l'influence du front de l'Est aussi, des militaires qui venaient du front de l'Est. Puis la guerre était perdue, donc ça devenait beaucoup plus dur.
Dans les règles, il y avait la possibilité pour ceux qui allaient être fusillés en représailles, d'envoyer des lettres à leurs proches. Tout l'après-midi jusqu'à 18h30, à l'hôtel de ville de Paris, lecture continue de ces lettres. En voici une, lue par Florian Sidbon, qui vient de créer une pièce de Jean-René Lemoyne hier soir au théâtre de l'Opprimé et qui nous a rejoint, comme il va rejoindre tout à l'heure l'hôtel de ville. 22 octobre 1941, Raymond Laforge.
Avec moi, il y a mon vieux copain Tellier qui va mourir avec moi. Ne pleurez pas et faites votre vie comme vous voudrez, ou plutôt... comme vous pourrez. Mon vieux copain Bartoli est avec moi. Il y en a un de 60 ans et un qui n'a pas 18 ans. Il y en a un qui, comme moi, ont fait les deux guerres. Les heures, les minutes sont comptées. Il est 14h10. On va nous emmener je ne sais où. chargé de chaînes sans doute, car j'en vois dans ce coin de la baraque où nous sommes groupés. Pour ma dépouille, faites comme vous voudrez. Laissez-moi pourrir là ou autre part. Conservez le souvenir de celui qui vous a aimé malgré tout. Le sous-préfet d'ici vient de nous faire ses adieux et a exprimé ses regrets. La Forge. Je meurs sans religion. Le cœur calme, mais un peu énervé malgré tout. Adieu à Paul, Georges, Jeanne. Tous, nous faisons nos derniers adieux et écrivons comme nous pouvons. Les gendarmes qui nous gardent sont encore plus blancs que nous. Adieu de Tellier. Ne vous désolez pas, cela ne servira à rien. Nous allons collaborer une dernière fois, comme le chasseur et le gibier.
La collaboration, elle passait par la sélection par les autorités civiles des otages, qui étaient pris dans les camps de rétention où il y avait beaucoup de communistes, et puis aussi c'était les autorités civiles françaises qui allaient prévenir les familles. Ouais. Il y a le nom de Tellier qui est prononcé là. Je vais vous chercher les poux dans la tête, et Claude oui. Pentier. Ajoutez peut-être au 4425, un 4426e. Il s'appelle Tellier, justement. Il était à Châteaubriant. Les belles lettres publient le texte que le commandant en chef allemand avait demandé à Ernst Jünger, officier à l'état-major à Paris, sur cette question des otages, et pour laisser entendre que la barbarie pouvait déterminer les ordres de Hitler, Jünger a donné les textes des lettres. Et alors, il y en a une du nommé Tellier, Maurice Tellier. Eh ben, il n'est pas content du tout parce qu'il va être fusillé, mais en plus il dit « Je n'appartenais plus au Parti communiste. C'est les actes de ces pauvres imbéciles qui ont entraîné mon arrestation. Je meurs comme otage, je le répète, par la faute d'autres imbéciles. » Eh ben, cette lettre n'a jamais été publiée dans les recueils de lettres de fusillés de Châteaubriand. Et ce Tellier, imprimeur de son état, on l'a pas dans votre dictionnaire.
Et voilà, il faut lire le dictionnaire avec attention. Il faut lire la biographie de Raymond Tellier, imprimeur, qui en effet est mort à Châteaubriant. Et il est donc à la page 1724.
Autant pour moi, Claude Pentier.
Et
vous dites bien sûr qu'il n'était plus communiste.
Il est signé par Claude Pentier et Julien Lucchini.
Et vous dites qu'il n'est plus communiste.
Un jeune historien. Il faudrait qu'on reprenne l'ensemble de la biographie, mais je pense, parce que beaucoup de choses qui sont dites à Châteaubriant, il y avait les deux, il y avait un militant trotskiste, il y avait le maire de Concarneau qui avait quitté le Parti communiste, tout ça, il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, et je pense qu'on a repris tout ça. Non, sur Châteaubriant, on est très bien informé, et les découvertes du dictionnaire, elles portent plutôt sur les obscurés sans grade dans les différentes régions.
Au lendemain des exécutions de Châteaubriant, le général de Gaulle, depuis Londres, déclarait ceci.
Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux et ne pas nous faire la guerre. Tôt ou tard, d'ailleurs, ils sont tous destinés à être abattus, soit par nous, soit par nos alliés. Mais il y a une tactique à la guerre. La guerre des Français doit être conduite par ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire par moi-même et par le Comité national. Il faut que tous les combattants, ceux du dedans comme ceux du dehors, observent exactement la consigne que je donne pour le territoire occupé. C'est de ne pas y tuer d'Allemands. Cela pour une seule, mais très bonne raison, c'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes momentanément désarmés. Au contraire, dès que nous serons en mesure de passer tous ensemble à l'attaque par l'extérieur et par l'intérieur, vous recevrez les ordres voulus. Jusque-là, patience. Préparation, résolution.
Le tempo va finir par devenir commun entre les différents courants de la résistance. Moi, je voulais vous poser une question qui est sans arrêt comme une interrogation dans vos notices, Claude Pentier. La guerre des Français, elle est aussi conduite par des étrangers.
Oui, en effet, il y a un certain nombre d'étrangers. On en a cité un avec Novara, qui est une victime simplement. Mais il y a des Juifs polonais qui ont des bonnes raisons idéologiques et politiques, etc., qui sont très présents dans ce qu'on appelle la MOI, les FTP MOI, qui jouent un rôle considérable à Paris, Hein, c'est eux qui portent vraiment la résistance, c'est eux qui sont les victimes. Quand ils sont, alors c'est bien sûr la fiche rouge, c'est. Mais un peu partout, il y a des Espagnols. Très présent dans le sud, et un petit peu partout il y a aussi des Maghrébins qui sont des travailleurs contraints qui s'évadent. C'est le cas à Dijon par exemple, ils s'évadent, ils rentrent dans le maquis, ils se font arrêter et ils sont 5 à se faire fusiller et qui sont pas connus. Alors là, on n'est plus dans le profil Estienne d'Orve ou Pierre Sémard, hein. C'est vraiment des inconnus.
Un peu connus, mais depuis peu d'années. Un article dans le dictionnaire, bien sûr. C'est Adiba, le tirailleur guinéen, qui
a même eu un petit
film. Resté dans les Vosges, et est devenu chef d'un maquis. Il y a les traîtres aussi, qui désignent comme étrangers, au service de police, aux renseignements généraux, les individus sans aveu qui font acte de francs tireurs, parce que maintenant on est entré dans la résistance et la condamnation des actes de francs tireurs. Il y a un personnage qui revient sans cesse, l'ombre de Louis Sadowski est funeste.
Louis Sadowski est un commissaire de police qui veut être très dévoué à l'État, très dévoué aux Allemands, et qui finalement fait de la surenchère. Alors il se vante lui-même d'avoir fait fusiller 60 à 80 juifs qui n'étaient pas communistes, qui étaient peut-être d'esprit fond populaire, c'est possible. Hein. Des petits brocanteurs, des petits commerçants de la banlieue est de Paris, etc. Il avait le rapport de police et il ajoutait lui-même judéo-bolchevique, etc. Pour être sûr d'aller faire condamner.
Et lui-même les juifs avait été responsable de rayon, c'est-à-dire d'organisation communiste. Du rayon juif communiste,
non, du tout.
Il faut maintenant un dictionnaire des collaborateurs.
Non, c'est l'intitulé qu'il donnait à un organisme de la police.
Pour se faire valoir auprès de la police.
C'est ça, c'est le nom.
Singularité, complexité des trajets. Vous avez cité le groupe Manoukian. En février 1944, le tribunal allemand du Gros Paris décide de faire une énorme publicité sous forme d'affiches rouges et noires au procès à grand spectacle qui est intenté au groupe Manoukian.
Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Un extraordinaire dictionnaire des fusillés 40-44 aux éditions de l'Atelier, avec 111 participants, sous la houlette notamment de Claude Pentier, ici présent, et qui a reconnu l'interprétation de l'affiche rouge.
J'ai reconnu Lénier Scudero, l'affiche rouge. C'est Léo Ferré qui a écrit la musique, qui a mis en musique. Et il y a eu une série d'interprétations, mais celle-là est chaude par la voix. Lénier Scudero, d'ailleurs, était quelqu'un qui avait une conscience sociale, qui était quelqu'un d'engagé.
Vous voulez dire qu'il était un des rares chanteurs à avoir une carte du Parti communiste?
On dit, les chanteurs qui chantent pour le Parti communiste disent qu'à la différence de Ferrat et d'autres, il était le seul à avoir un moment pris la carte.
Vous ne trouvez pas que ces exercices de comptage auxquels je vous contrains depuis le début de l'émission, communiste, pas communiste, ça commence à faire beaucoup? Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'exagérations au lendemain de la libération dans les chiffrages.
Oui, mais enfin, il y a la réalité d'une répression qui est quand même de grande ampleur. Parce que voilà, si on regarde les chiffres, là on est à 4500 dans les catégories qu'on suit, c'est-à-dire condamnation, otage, ou mort sous la torture, puisqu'on attache aussi de l'importance aux femmes fusillées, fusillées hors de France. Mais on est sans doute à 15 000 si on tient compte des fusillés sommaires. Et alors après, on ajoute les massacrés, et après on ajoute les morts au combat, on ajoute les gens qui sont morts dans les camps, on ajoute les juifs morts, on arrive on va à des chiffres qui sont, disons, de l'ordre de 130 000, 150 000 personnes.
Un gros tiers de communistes dans les notices de votre dictionnaire, mais il y a aussi d'autres massifs de mémoire. On parlait du massif de mémoire du Mont-Valérien, du massif de mémoire de Chateaubriand. Il y a aussi un massif de mémoire chrétien, avec des noms très connus, comme celui de Gilbert Dru, le brillant étudiant de Lyon. La Rosée de Reseda d'Aragon s'est dédiée à Gilbert Dru et à Guy Moquet. En voici un autre qui s'appelle Roger Pironneau. Lecture par Florian Sidbon de son dernier témoignage d'un fils de pédiatre du 8e arrondissement de Paris.
Parents adorés, je vais être fusillé tout à l'heure à midi. Il est 9h15. C'est un mélange de joie et d'émotion. Pardon pour tout. La douleur que je vous ai causée, celle que je vous cause, celle que je vous causerai. Pardon à tous pour tout le mal que j'ai fait, pour tout le bien que je n'ai pas fait. Mon testament sera court. Je vous adjure de revenir à la foi. Surtout, aucune haine contre ceux qui me fusillent. Aimez-vous les uns les autres, a dit Jésus, et la religion à laquelle je suis revenu, celle à laquelle vous devez revenir, car mes frères et sœurs chéris, vous vous en étiez écartés, est une religion d'amour. Je vous embrasse tous de toutes les fibres de mon cœur. Je ne cite pas de nom, il y en a trop de gravés dans mon cœur. Votre fils, petit-fils et frère qui vous adore, Roger. 10h15, je suis calme, serein. J'ai serré la main de mes gardiens, grand plaisir. Je vais tout de suite voir l'abbé. Immense joie. Dieu est bon.
Le réseau Saint-Jacques, auquel appartenait Roger Pironneau, gravitait autour de Saint-François-Xavier du 8e arrondissement, et ses parents, visiblement, n'avaient pas la même conception religieuse que lui. Beaucoup de chrétiens dans ce dictionnaire?
Oui, on le voit par les dernières lettres. Hein, c'est que beaucoup font référence à la religion devant la mort. Alors, des chrétiens, il y en a dans la région lyonnaise, parce que y a Francis Schirra, par exemple, qui peut être cité à côté de Dru. Il y en a un petit peu partout, ça forme pas un bloc homogène comme le bloc communiste, parce qu'il est réuni par l'adhésion. Et là, c'est difficile de compter, hein, parce que en réalité, on sait ceux qui sont communistes, ceux qui appartiennent à la SFIO, ceux qui sont francs-maçons, c'est parce qu'ils ont un certain âge et qu'on a pu déjà repérer leur passé. Mais beaucoup de ces fusillés sont jeunes, et donc ils sont rentrés dans une résistance entraînée par des gens qui, eux, ont peut-être des caractéristiques politiques, mais on ne sait pas quel aurait été leur engagement à la libération, puisqu'ils n'ont pas atteint la libération. Donc il y a tout, un flou qui serait intéressant à observer.
Je vous propose, en contrepoint, d'entendre le récit d'une histoire extraordinaire telle que l'a fait après la guerre Maurice Garçon. Maurice Garçon était avocat de 5 très jeunes gens, dont on ne sait pas du tout ce qu'ils seraient devenus après la guerre, qui n'avaient pas de parcours politique antécédent et qui avaient tué, dans des conditions assez atroces d'ailleurs, un médecin collaborateur, le docteur Guérin. Et Maurice Garçon, en 49, reconstitue la plaidoirie qu'il a faite devant une cour, cette fois française.
Les jeunes gens que nous défendons étaient encore des enfants lorsque la guerre a éclaté. Et lorsqu'ils ont assisté dans Poitiers au défilé tragique des Français, chassés de leur foyer par l'invasion et fuyant sur les routes, ils appartiennent à cette génération née dans la fragile sécurité que nous a donnée la victoire, et ils ont souffert d'autant plus de l'effondrement du pays qu'ils étaient orgueilleux d'une patrie dont le génie brillait d'un vif éclat dans le monde. Ils ne méritaient pas l'infortune dont ils souffrent et la supportent mal. Ils se sont trouvés sans guide, et leur conscience tourmentée leur a fait porter sur certains hommes des opinions outrées. L'outrance de leurs avis est le fait de leur âge et de leur désespoir.
Fait exceptionnel, c'est pour ça que Garçon est invité à reconstituer cette plaidoirie. Il obtient que la peine de mort ne soit pas inscrite dans le verdict, il obtient.
Mais c'était vraiment un très grand avocat.
Les travaux forcés à
donc son
à
prestige, son prestige l'accompagnait aussi à Maurice Garçon. Et c'est un observateur. D'ailleurs, on dispose de son journal
qui vient de paraître,
qui vient
aux, belles
paraître
lettres aussi,
aux belles lettres, hein, et où il porte là, justement un certain nombre de, il donne un certain nombre de descriptions de ses réactions par rapport à l'évolution de la justice.
Alors, il plaide là devant un tribunal français. Quelle est la responsabilité des formations judiciaires françaises?
Ah ben, elle est importante puisque la plupart de ces les juges ne se sont pas ont accepté de jouer ce rôle-là. Ils condamnaient quand même beaucoup moins à la peine. Ils condamnaient avec beaucoup plus de modération que les tribunaux allemands. Hein, il faut bien le reconnaître, sauf les cours spéciales. Là, c'est on est en zone libre où les tribunaux de Vichy ont encore une certaine place. Mais il faut voir Maurice Garçon ironiser sur leur incapacité de respecter une justice équilibrée.
Les cinq gamins ne font pas partie du dictionnaire des fusillés. Fort heureusement, on peut peut-être terminer par l'évocation. Il y en aurait des dizaines à citer, des bios marqués par une certaine incertitude, par une certaine ambiguïté, ombre et lumière. Il y a un cordonnier qui s'appelle Roger Laus. Alors Roger Laus, il va être fusillé au Mont Valérien en février 42. Vous vous souvenez de l'histoire ?
Mais oui, je dis ça de mémoire, mais il a, dans une dispute familiale, il a tiré, non pas sur sa femme, mais dans le sol, je crois. Et donc, le coup de feu a été entendu par des Allemands qui passaient. Donc il s'est précipité pour jeter l'arme. Un concierge l'a vu, a dit qu'il avait où était l'arme, et donc il a été accusé d'avoir agressé les forces allemandes. Mais on a pris tous les fusillés sans exception. C'est la caractéristique de ce type de travail sociobiographique qui doit être fait. Et donc il y a en effet quelques biographies un peu pleines d'ambiguïté.
Celle de Jean Epstein qu'on va évoquer pour finir est parfaitement claire. Ancien des brigades internationales, polonais. Son fils le voyait rarement parce qu'il était tout le temps en état de circulation. Il descendait sans cesse d'un car et son fils, le petit microbe, ça c'était le surnom que lui donnait son père, son fils l'avait surnommé Papa Car.
Mon petit microbe, mon fils, quand tu seras grand, tu liras cette lettre de ton papa. Il l'a écrite 3 heures avant de tomber sous les balles du peloton d'exécution. Je t'aime tellement, mon petit garçon, tellement, tellement. Je te laisse seul avec ta petite maman chérie. Aime-la par-dessus tout. Rends-la heureuse, si heureuse. Remplace ton papa car auprès d'elle. Elle est si bonne, ta maman, et ton papa l'aime tellement. Console-la, mon petit garçon chéri, soutiens-la. Tu es tout maintenant pour elle. Donne-lui toute la joie. Sois bon et courageux. Je tomberai courageusement, mon petit microbe chéri, pour ton bonheur et celui de tous les enfants et de toutes les mamans. Garde-moi un tout petit coin dans ton cœur, un tout petit coin, mais rien qu'à moi. N'oublie pas ton papa car.
Merci à Florian Sidbon qui fait partie des comédiens qui vont lire toute la journée jusqu'à 18h30 à l'hôtel de ville de Paris des lettres de fusillés. Merci à votre équipe que vous avez animée comme d'habitude avec brio, Claude Pentier, et qui produit ce dictionnaire, les fusillés 1940-1944 aux éditions de l'Atelier. 2 kilos et seulement 30 euros pour la version imprimée.
Et merci à Radio France.
L'émission était réalisée par Jacques Sigal, préparée par Franck Oliver, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, avec à la technique Benjamin de la Gâtinais.